rapport à la définition internationale, je me posais la question de savoir si on avait une idée de la quantité ou du flux de personnes qui migrent en dehors de la définition, c'est-à-dire en dessous de un an résident, et peut-être par exemple au-dessus de 2 mois pour le distinguer du touriste. Parce que, en fait, si on a une idée de ce flux-là, on peut avoir finalement une autre appréciation. Est-ce qu'on a une idée de ce flux-là? Est-ce qu'il y a un moyen de le recenser?
Alors, je n'ai pas en tête, mais on a des infos sur le tourisme international. Et là, j'avoue, c'est vrai que je n'ai pas en tête les flux.
C'est justement pas le tourisme. C'est pour ça que je dis, ah, entre 0 et 2 mois, c'est certainement du tourisme. Mais entre 2 mois et 1 an, ça répond peut-être aussi à la question du Syrien. Et là, je pense qu'il y a des flux qui peuvent être très, très importants. Enfin, je ne sais pas.
Bien sûr.
Il y a aussi des flux liés à la retraite. Parce que, comme j'ai dit hier, qu'une bonne partie des gens vont passer leur retraite là où ils sont allés en vacances. Ça vaut évidemment pour les Français qui vont en Bretagne et tout, ça vaut par exemple pour les Anglais, qui il y a des dizaines de milliers d'Anglais qui sont venus prendre leur retraite en France, donc ils vont rentrer dans la catégorie des migrants, et l'économie de la retraite, vous voyez, moi j'habite dans un village de Provence, où il y a effectivement un gros parquet de Marocains, et il y a autant de Belges, parce qu'il y a des dizaines de milliers de Belges qui prennent leur retraite dans le sud de la France, mais on les voit pas, parce qu'un Belge c'est discret quoi, c'est blanc, c'est pas français, tout ça, bon, donc ils sont pas répertoriés comme communauté. Mais c'est pour dire qu'effectivement, dans ces phénomènes, par rapport à ce qu'on a dit hier sur le tourisme et l'effet sur la retraite, il y a dans les migrants une bonne partie des retraités. Et c'est un des enjeux de l'économie française, c'est de récupérer les retraités des pays qui viennent en vacances chez nous. C'est un enjeu majeur, notamment avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec l'Angleterre.
Mais sur la question de la circulation migratoire, c'est en fait une question assez importante et qui ne se passe pas seulement... Enfin bon, nous on est un petit territoire, la France, à l'échelle mondiale, mais la question se pose aussi beaucoup à l'intérieur des pays, puisque ce qu'on appelle la circulation professionnelle ou l'immigration pendulaire, c'est-à-dire le fait que les gens vont et viennent, travaillent sur des bases saisonnières, qui est une des modalités vraiment classiques de la migration sur des petites distances, c'est un phénomène qui est très très puissant, mais qu'on a beaucoup de mal à quantifier parce qu'il y a très peu d'enregistrements en résidence. Mais si vous réfléchissez bien, quand je vous ai dit la migration elle est surtout intra-régionale, la migration forcée elle est micro-régionale, il faut aussi penser à ces micro-migrations transfrontalières, le commerce de valises, les migrations saisonnières liées à l'agriculture, qui nous paraissent un petit peu exotiques ou peut-être folkloriques parce que ça correspond à des... En fait, c'est pas du tout des phénomènes minoritaires. Et ça explique aussi que à l'intérieur de très grands territoires, vous pouvez penser à l'Inde ou à la Chine, il y a des dispositifs politiques qui visent à contrôler la migration intérieure parce que les enjeux économiques pour, un, mesurer, deux, contrôler ces circulations professionnelles sont énormes. En Chine, il y a un système d'interdiction en fait, de la mobilité intranationale, donc avec un système de permis qui a été un peu, on va dire, assoupli ces dernières années. Les trucs, enfin, ça s'appelle le Roku.
En Russie aussi, à Moscou.
En Russie, pas de liberté de circulation à l'intérieur du pays. En Inde, idem. L'idée étant de garder les populations, d'éviter un peu de l'exode rural massif, de faire un peu de la planification très très autoritaire de la mobilité individuelle. Donc en fait, ces enjeux sont des enjeux internationaux, sont des enjeux régionaux, sont aussi des enjeux nationaux. Et la France n'est pas complètement exempte dans une histoire assez récente d'avoir voulu contrôler les migrations intranationales, d'avoir eu des problèmes d'intégration de migrants intranationales. Alors moi, j'ai lu Bécassine, quoi. Je veux dire, les Bretons je sais pas quoi, dans les zones super-urbaines à Paris, c'était pas du tout sympathique. Ils étaient un peu bêtes, c'était des domestiques. Ça renvoie tout à fait à l'imaginaire du migrant international. Donc on a une sorte d'effet d'échelle, et je pense que vous êtes tout à fait beaucoup plus cultivé que moi à ce titre-là pour penser l'articulation justement des politiques publiques ou de l'action publique ou même des politiques d'entreprise à ces différentes échelles.
Le migrant, il est calculé par rapport au lieu de résidence ou au lieu de travail. Un Français qui travaille en Suisse et qui y va tous les jours, il n'est pas migrant.
Non, il sera transfrontalier.
Ça, c'est encore autre chose. Ouais. D'accord.
Excuse-moi, Jean.
Oui, pardon.
Merci.
Vas-y.
J'aurais aimé que vous développiez, vous l'avez fait un peu sur les États-Unis, justement sur les catégories à travers lesquelles on appréhende ces arrivants. Que vous nous en parliez aussi, je pense, un peu pour la France, si c'est possible, parce que je pense que ça dit beaucoup de l'évolution des politiques migratoires. Et j'aurais aimé que vous développiez sur ce thème-là.
En France, comme vous le savez, on dispose pas de statistiques communautaires qu'on appelle à tort et de manière complètement stupide ethnique, quoi. Il n'y a pas de statistiques ethniques, mais il n'y a pas de... Voilà. Donc on part du principe que l'identité, elle est... je me tourne vers le sociologue du politique que vous êtes. On parle d'identité procédurale, alors qu'on a mis le chapeau républicanisme. Je ne sais pas comment on dit. C'est quoi le terme?
De démontrer technique, moi, je ne sais
pas. Non, le truc, l'identité républicaine, je sais pas, dans le débat public, il y a toujours, évidemment, là j'ai un trou de mémoire, mais il y a toujours le même terme qui revient.
L'identité nationale.
Oui, mais identité nationale, mais tout le monde se réclame de, je sais pas, disons le républicanisme, le fait que c'est l'état de droit, la citoyenneté nationale, elle est complètement déconnectée de toutes les dimensions culturelles de l'identité. C'est-à-dire, le français, c'est une abstraction, c'est le type qui a la citoyenneté française et qui, la main sur le cœur, chante la Marseillaise et fait le chant du coq, quoi. Quelle que soit sa couleur, son religion, la langue, etc. Donc il y a un peu cette fiction qui est, on va dire, une fiction qui a été beaucoup reprise par la théorie politique, entre deux types de modèles politiques, le modèle dit républicain, c'est pour ça que je cherchais le mot républicanisme, mais c'est pas ça qui est utilisé en France, le modèle dit républicain, où l'identité, c'est une identité de papier, en fait, liée à la citoyenneté au sens de la procédure et du statut, et l'identité culturelle, avec, on dit, Fichte et le modèle allemand, où l'identité nationale, c'est lié à la maîtrise de la langue, un contenu culturel, un sentiment, etc. Donc on a cette vieille opposition, on va dire, un peu théorique, qui en fait dans la pratique, on le sait maintenant, correspond pas à grand chose, quoi, parce que les perceptions sociales, elles utilisent à la fois les procédures, les statuts, mais aussi la façon dont on perçoit l'autre, la perception de la race, la perception de l'ethnie quand on parle d'ethnie, la perception de la religion, et qu'il y a des moments dans l'histoire où la religion, par exemple, va devenir celui qu'on vit, la religion va devenir un vecteur ou une variable très très importante, alors qu'elle l'a pas du tout été dans des périodes antérieures et qu'elle le sera peut-être pas dans 5 ans. Dans d'autres cas, c'est la perception de la race. Vous parliez de l'Allemagne nazie ou d'autres, ou la question de la couleur de peau, ou la question, Et en fait, ces différentes composantes vont fluctuer dans le traitement de la migration. Moi, ce que j'aimerais surtout dire, c'est que rien n'est éternel, rien n'est figé, en fait, dans le rapport des sociétés, que ce soit les sociétés d'origine ou les sociétés d'accueil, les sociétés de transit aussi, rien n'est figé dans la relation à l'immigration. Là, il y a une labilité absolue qu'on ne perçoit pas du tout quand on est plongé la tête comme l'autruche dans la crise. On dit « Oh là là, c'est catastrophique, il y a plein de gens qui arrivent, et puis en plus on est dans un moment de tension identitaire, à fond la caisse, en France, en Europe et tout. » Et en fait, on oublie qu'il y a d'énormes fluctuations, et sur des temps pas tellement longs, sur des 20 ans, des séquences de 20 ans.
Monsieur.
Oui, je vais... Bernard Garin, je vais me présenter, cette fois aussi, en tant que grand-père. Je suis grand-père d'un petit franco-américain, et comme ma fille aînée a épousé un américain d'origine haïtienne, qui a probablement des ancêtres
français.
Africains.
Et français.
Je suis particulièrement intéressé par ces questions de migration, et j'avais une observation et une question. L'observation, c'est que je suis surpris par le 10% de migration au 19e siècle. Je suis allé à Island, qui est la porte de l'Amérique. Vous avez dit que c'était l'essentiel des mouvements migratoires, c'était entre l'Europe et l'Amérique. Et j'ai coordonné, sans avoir vérifié ces données, que c'était une vingtaine de millions d'immigrants européens qui étaient arrivés par cette porte principale de de l'immigration aux États-Unis. Donc le 10% de la population mondiale qui était à l'époque de 2 milliards, franchement, m'étonne beaucoup. Et puis, la requête, c'est que, ben donc, il y a une diaspora haïtienne de 1 million en France et de 1 million aux États-Unis. J'aimerais que vous nous parliez des diasporas, effectivement, comme conséquence, enfin, vous l'aviez dit au début, conséquence de l'immigration. Enfin, ça m'intéresse beaucoup.
Donc, sur la question des chiffres, effectivement, bon, j'ai pris l'exemple de l'immigration en lot vers les États-Unis, hein, mais quand j'avais dit Amérique du Nord, ça inclut aussi le Canada, qui est quand même un territoire qui a été quasiment intégralement peuplé par l'immigration. L'Amérique latine aussi a été, du fait aussi de la décimation des populations autochtones, peuplée par l'immigration, à la fois l'immigration, j'adore ce terme, l'immigration servile, c'est-à-dire la traite, et l'immigration hispano-portugaise. On pense bien sûr aussi à l'immigration de l'Océanie, c'est-à-dire une façon assez pudique de dire à nouveau le peuplement de l'Australie après éradication des très très faibles populations autochtones, et bien sûr aussi l'immigration de peuplement dans les territoires coloniaux. Là, je pense à l'Algérie en particulier, ce n'était pas le cas pour la Tunisie et le Maroc, mais aussi d'autres territoires coloniaux, les territoires coloniaux britanniques, l'Angleterre, l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan. Donc en fait, il y a un déploiement un peu plus... voilà. Et je ne vous parle pas des migrations chinoises qui sont aussi massives au XIXe siècle, les migrations chinoises en Asie du Sud-Est, et qui constituent en fait l'architecture ou l'épine dorsale des réseaux migratoires dont on observe l'explosion entre guillemets, aujourd'hui, puisqu'on a des communautés diasporiques de Chinois installés en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, Philippines, Indonésie, etc., depuis le XIXe siècle, qui sont essentiellement des communautés marchandes et qui vont constituer justement ces vecteurs, comme je vous le disais, sociologiques et historiques, hein, de réseaux migratoires. Alors, sur les diasporas. Là, je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire une distinction méthodologique entre les personnes d'origine étrangère, donc qu'on appelle en général immigrés, mais pas toujours, enfin immigrés en fait dans le cadre français, on va dire immigrés plutôt que immigrants qui seraient l'arrivant, quoi. Mais dans plein de pays, ça ne marche pas du tout, cette distinction. Et les diasporas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on utilise le terme diaspora de deux façons. Un sens restreint, la diaspora, c'est sur le modèle de la diaspora juive ou de la diaspora arménienne, une migration qui se passe dans la violence, avec un événement catastrophique initial, et avec un objectif de retour dans le pays d'origine. Ça, c'est un peu le triptyque fondateur de la diaspora au sens restreint. Donc je vous dis, voilà, la diaspora juive, c'est l'archétype dans la littérature sociologique, la diaspora arménienne aussi. Donc il y a une catastrophe, les gens sont dispersés, et par diaspora juive, j'entends la diaspora qui émigre vers l'Iran, bien sûr, au moment de la première destruction du temple de Jérusalem. Et puis tout le reste. Mais ça, c'est là d'où vient le concept. Diaspero, dispersé en grec. Et l'objectif de retour dans le pays d'origine. 47, la création de l'État d'Israël, on a une boucle sur la notion. Aujourd'hui, on utilise le terme de diaspora de manière beaucoup plus étendue et très très floue. Ce sont à la fois les populations de migrants, donc de résidents qui n'ont pas vocation à s'installer ou qui peuvent acquérir la nationalité, enfin on ne sait pas, de migrants, d'immigrés, qui entretiennent avec le territoire d'origine ou le pays d'origine, soit à l'échelle micro-régionale à l'intérieur, soit la nation, l'État, un lien très fort. Pas forcément d'ailleurs avec l'objectif de revenir, mais qui entretiennent un lien très fort. L'exemple classique aujourd'hui, c'est la diaspora tamoule vis-à-vis de l'État sri lankais et d'ailleurs du conflit qui se déroule au Sri Lanka entre les Tigres et l'État en Grande-Bretagne. Donc on a un lien très fort, un lien politique, l'envoi d'argent pour soutenir l'un ou l'autre camp, donc un investissement de la population immigrée dans la politique de pays d'origine. Deuxième exemple qui est très important, ce sont les Philippines. Un État insulaire, les Philippines, voit augmenter au cours des années 70, je me dépêche, l'émigration de sa main-d'œuvre peu qualifiée et moyennement qualifiée en grande partie féminines d'ailleurs, vers tout un tas de régions dans le monde, Europe, pays du Golfe, etc., etc. À partir des années 80, l'État philippin décide d'organiser la gestion de sa diaspora en créant un ministère, une institution qui visse un petit peu tout ça et essaye de maximiser l'extraction de revenus de sa diaspora, puisque comme je vous le dis, souvent les émigrés envoient des sous à leur famille. Le problème d'un État qui veut gérer son émigration et en extraire un maximum de rentabilité, c'est qu'on ne veut pas que l'argent aille directement à la famille. Parce que sinon, comment est-ce qu'on fait, un, pour le taxer dans des États qui ne sont pas ultra forts en termes de fiscalité, et deux, pour en retirer des prébendes et des, on va dire, un instrument de contrôle politique des populations. On parle d'États qui ne sont pas intégralement démocratiques, je vous rassure. Et dans ce contexte-là, on a tout un dispositif fiscal de visa et qui va jusqu'à organiser la formation de professionnels pour l'exportation dans des universités payées par l'État où vous faites vos études sous condition de vous faire exporter ensuite avec un contrat de travail sur lequel l'État va prélever une partie de votre salaire au moment du départ. À chaque fois que vous revenez pour vos vacances, vous allez payer un visa d'entrée dans le territoire dont vous avez la nationalité, de manière à assurer que vous n'allez pas trop envoyer d'argent à votre famille, mais que ça va quand même passer par les caisses de l'État. Et troisième instrument de contrôle, l'État philippin, comme l'État européen, comme l'État sénégalais, etc., vont faire très attention à la gestion de leur taux de change, puisqu'en général, les remises migratoires sont en monnaie internationale, entre guillemets, c'est-à-dire souvent en dollars et en euros. Et donc l'État va contrôler un maximum les taux de change pour maximiser aussi l'extraction de rente au moment de la conversion. Donc voilà, ça c'est une nouvelle définition de ce qu'est la diaspora.
Je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'il y a aussi tous les Français qui partent à l'étranger, il faut le penser comme ça, parce qu'on estimait à peu près qu'il y avait 1,5 million de Français à l'étranger, on est passé à 3 millions à peu près, c'est difficile à dire parce qu'ils ne sont pas tous déclarés, et on pourrait monter à 4 ou 5 millions si on comparait à d'autres pays. Donc il y a aussi que c'est des gens qui apprennent le monde, etc. Il y a aussi tout un effet d'ouverture, de découverte, de formation, d'acculturation, etc. Donc il ne faut pas le penser que pour les autres, il faut le penser aussi pour nous. Je dirais, en France, c'est un débat. Moi, je vois, tu fais le débat, on dit les Français quittent la France parce que la France s'effondre. Je dis non, les Français apprennent le monde pour le ramener en France. Les deux étant sans doute en partie vrai. Voilà, je voulais juste dire ça. Bon, normalement, on est un peu au bout du parcours. Donc, je vous propose de prendre les dernières questions et vous aurez deux minutes. Donc, parce qu'après, ils vont vouloir aller prendre le café. Vous pourrez le prendre avec eux. Mais après, il y a une autre intervention. Donc, mon rôle, c'est de jouer le monsieur Loyer. On commence à gauche, on prend toutes les questions d'un coup.
Il reste, il y a Claire, Karine et Frédéric.
Et le monsieur là, pourquoi? Parce qu'il est derrière toi, tu lui donnes pas la parole. Il aura pas. Bon, d'accord, allez-y.
Il a déjà eu.
Il a déjà eu, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il a déjà eu. Allez-y, mesdames.
Bonjour, Karine Bonjour. Du CGET.
Vous répondez ensemble aux trois.
On a entendu depuis quelques années un terme qui est migration climatique. Je voulais savoir si c'était un artifice de communication ou c'était quelque chose qu'on constatait. Ou ça pouvait être plutôt caché sous un terme de déplacement économique, finalement. Voilà.
Excellente question, madame.
Moi, j'avais une question sur les politiques d'immigration. Les politiques qu'on mène vis-à-vis de nos anciennes colonies, on va dire, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Enfin, et l'évolution de ces politiques vis-à-vis de ces pays, qu'est-ce que ça dit de notre rapport à l'intégration aujourd'hui et d'identité?
Et vous oubliez tous de vous présenter, vous voyez que ça, on le remarque ou pas.
Frédéric Moulin, Gertegaz. Moi, j'avais aussi une question sur les politiques. Vous avez dit tout à l'heure que finalement, ce qui permettait de comprendre l'impression d'explosion, c'était le caractère cumulatif. Et donc, on peut imaginer que c'est finalement le signal politique principal, en tout cas, qui est retenu par les décideurs publics pour tracer le chemin des politiques en la matière. Donc, est-ce qu'on observe effectivement une évolution des politiques et notamment un durcissement des politiques d'immigration en Europe, intuitivement on pourrait le dire, mais est-ce qu'on observe ça un peu partout dans le monde?
On y reviendra tout à l'heure avec l'intervention suivante, hein, puisque c'est un de ces sujets. Mais bon, pour finir.
Il n'y a pas vraiment parlé des politiques, hein, cela dit.
Oui, allez-y.
Oui, c'est le fait qu'on soit parlé assez d'immigration, parce que le débat sur l'immigration était au départ un débat sur l'immigration, et qu'on soit venu sur le terme migration, qui est finalement plein de bon sens. C'était vraiment très intéressant. Comment vous analysez le fait qu'on ait réussi à replacer le débat, ou à placer le débat au bon niveau, et qu'on soit pas resté sur l'immigration? Je parle du contexte français.
Voilà, il vous reste 1 minute 30, comme
ça. L'immigration climatique, c'est beaucoup à l'agenda de l'ONU, ça s'est un peu invité durant le dernier conférence sur le climat là, à Paris. On a, en fait, on a les, et le GIEC, donc le groupement global d'experts qui s'est occupé de prouver, entre guillemets, à l'échelle internationale qu'il y avait du réchauffement climatique et que c'était peut-être un problème, s'est emparé de la question des migrations il y a un an et demi et a commencé à sortir des prévisions sur la mobilité globale. Deux choses. Comme toutes les migrations forcées, les migrations climatiques liées à des événements climatiques extrêmes, type tsunami, qui est un des deux types de migration, sont gérées en fait à l'échelle micro-locale, typiquement le Bangladesh, typiquement les zones immergées en Indonésie. C'est-à-dire que c'est sur les pays même où se passe l'événement que pèse le coût et les conséquences financières, sociales, économiques, politiques de la mobilité. Donc on ne sera pas concerné. Et les pays qui ont de fortes ressources, type Pays-Bas, qui pourraient être dans la situation de l'Indonésie et du Bangladesh, sont tellement riches qu'ils vont refaire des polders, donc il n'y aura pas de migration. Plus théorique, et la Camargue. Plus théorique, par migration climatique, on n'entend pas seulement les migrations catastrophes liées à des événements extrêmes, mais aussi la transformation durable des territoires dû au réchauffement climatique et donc à la modification des dessins côtiers, des conditions climatiques. Et ça, en fait, on n'est pas exactement sûr de ce que ça va donner, parce que si on suit les prévisions du GIEC, on a un accroissement, c'est horriblement technique, c'est complètement stupide, mais de l'habitabilité de plein de zones dans le monde. On pense à la Sibérie, on pense au désert, qui vont devenir des zones habitables. Donc là, pour faire des prévisions en matière de redéploiement de population, d'abord, moi, je travaille beaucoup avec des collègues en sciences dures, et moi, j'adore, parce que un truc, on augmente de quelques degrés, changement de la végétation, paf, on met des migrants qui arrivent tout de suite. J'ai essayé de vous expliquer qu'il y avait tout un tas de facteurs qui expliquaient la migration et que peut-être l'émergence de fougères, je ne sais pas quoi, en Sibérie, ne va pas complètement tout de suite. On a voilà.
C'est important, les fougères.
Et ça, c'est du très long terme. Et là-dessus, on a très peu de vista, on essaye de faire des prévisions, mais on est quand même sur du tâtonnement. Mais c'est très important, parce qu'en fait, on va changer la face du monde, comme dirait.
Oui, mais on peut aussi dire, par exemple, que la Sibérie va devenir une région extrêmement agréable. Avec
mais
des
c'est
ports,
ce que j'aime dire.
Voilà, c'est ça.
C'est ce que j'aime dire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où vont aller.
Le toujours en termes catastrophiques. Moi, c'est ça qui me fatigue un peu. Ils ont tendance à augmenter quand même le risque.
Le GIEC a dit les deux. Le GIEC a dit augmentation des événements climatiques extrêmes, ce qui est un fait, mais aussi transformation de l'habitabilité de territoires qui ne l'étaient pas. Donc, en fait, les migrations vont probablement aller à d'autres endroits que ceux qu'on attend. Deuxième question. Politique migratoire, lien colonial, rapport à l'identité. Je vais laisser Patrick répondre à cette question. Patrick Simon, je vous invite à lui reposer parce que ce sera plus fort. Durcissement des politiques d'immigration en Europe, c'est sûr, depuis 1974 avec une accélération au début des années 90. Et par durcissement, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire déploiement de politiques anti-immigration, parce que durcissement, ça pourrait être obliger les gens à venir en Europe. Ce qui serait assez logique si on regarde le déclin démographique du continent. Mais on a choisi d'essayer d'empêcher. Bon. Donc il y a un durcissement qui est exactement le même dans d'autres pays occidentaux et qui correspond aussi à un durcissement dans d'autres pays. Je pense aux pays du Golfe qui sont des pays d'immigration massive, mais aussi à l'Inde, à l'Afrique du Sud, où là, il ne s'agit pas d'empêcher les flux, mais d'essayer de s'assurer que les gens ne restent pas. Donc par durcissement, on n'entend pas un amoindrissement des entrées et des sorties, mais une radicalisation de la position de l'État vis-à-vis des migrants et un amoindrissement de la palette de droits qui sont mis à leur disposition. Dans le cas des pays du Golfe, je vous rassure, il n'y a de toute façon aucun droit mis à disposition de personne, donc l'amoindrissement est complexe. Mais il s'agit de surtout ne pas avoir d'installation et donc de favoriser ce qu'on appelle le turnover.
Hélène, je vous remercie.